Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeudard le 7 novembre 1991.
C'est à partir de l'interrogation que nous avons essayé de préciser hier, le caractère propre de cette interrogation, qui est l'interrogation par rapport à la détermination, par rapport à la forme, ou la source de la forme, qui nous permet de découvrir par l'intelligence ce qu'il y a de premier dans la réalité existante, dans toutes les réalités existantes. Mais comprenez bien que quand il s'agit de préciser au plan métaphysique ce qu'est l'être, nous regardons en premier lieu, l'homme. Regardons pas un petit caillou ou une feuille de papier ou un petit instrument. Puisque, quelle est la substance de ça? La substance de la table. C'est déjà assez difficile de préciser ce que représente cette détermination première. Il faut regarder les réalités les plus parfaites. La réalité la plus parfaite que nous expérimentons, c'est l'homme. C'est pour ça que je vous disais, on se sert des prédicaments. Les prédicaments, c'est par rapport à l'homme. Dernier prédicament, l'habitus. Elle n'existe que pour l'homme. Une autre question qui sera une question de l'ordre de la sagesse, jugement de sagesse. Où existe-t-il des substances? Et ça, c'est une question, jugement de sagesse. Je ne la traite pas du tout au début, je pars de l'homme. La métaphysique est faite pour chercher ce que c'est que le nous et Dieu. Ce qu'est la personne humaine, pour ajouter ça à nous, ce qu'est la personne humaine et Dieu. Et non pas du tout pour connaître l'univers. L'univers, c'est la nature. Les réalités autres que l'homme, on précise leur nature. Tandis que l'homme, on cherche ce qu'elle est comme personne. C'est très important. Alors, je crois que la voie première pour découvrir ce que c'est que l'ousia, c'est de partir des prédicaments. On peut ensuite comparer avec l'âme, ce qu'on faisait. Ça aide. On peut aussi, puisque normalement, la philosophie première présuppose toutes les autres parties de la philosophie. Je peux donc partir comparer aussi à ce que représente l'eidos de la philosophie première. Il y a une petite phrase très amusante d'Aristote et très intelligente dans le livre de Zéta, où Aristote se dit: si toutes les réalités étaient des œuvres d'art, l'eidos serait substance. Et là, petit coup de patte par rapport à Platon. L'eidos, vous voyez ce que c'est, hein? C'est la forme idéale. C'est la forme fruit de l'inspiration. Vous avez une idée. Du reste, on traduira idée. L'artiste a une idée. Quand il est inspiré. Quand il n'est pas inspiré, il n'a pas d'idée du tout. Et quand il est inspiré, il a une idée. Une noter ce que représente dans la métaphysique d'Aristote cette recherche de la substance. Métaphysique Zeta. C'est le livre où Aristote cherche ce que c'est que l'ousia. Avicenne a dit qu'il avait lu 50 fois le livre Zeta avant de le comprendre. Et Avicenne n'était pas un imbécile. Donc, avis aux amateurs. Il faut lire 50 fois le livre Zeta avant de le comprendre. Et c'est très vrai. C'est un livre extrêmement difficile. Le livre que nous verrons ensuite pour l'acte, qui est le livre Theta, est encore plus important. C'est les deux grands livres de la métaphysique d'Aristote qu'il faut. Ceux qui veulent vraiment entrer dans la pensée d'Aristote et la métaphysique de l'être doivent avoir lu. Heidegger n'a accepté au séminaire sur le livre Theta que ceux qui lisent Aristote en grec. Je veux bien ouvrir un séminaire sur le livre Theta en acceptant que ceux qui livrent métaphysique Theta en grec, ça j'aurais très peu de monde. Mais que on sache suffisamment grâce à la traduction, on puisse quand même sentir un peu ce que c'est que cet écrit d'Aristote du livre Zeta. Le livre Zeta, c'est la recherche de tous les premiers dans l'ordre de la détermination. Alors, je mets ça en note à venir, ça peut nous aider beaucoup à découvrir ce que c'est que la substance. C'est intéressant. Bon, ici je vais vite puisque c'était le cours de l'année dernière, mais c'est intéressant de chercher quels sont les premiers dans l'ordre de la détermination dans toutes les parties de la philosophie. Et Aristote fait ça dans les 7 ans. Vous comprenez, Aristote se trouve en face de Platon. Il ne faut jamais oublier ça. Il a été quand même 20 ans à l'école de Platon. Et c'est comme si vous étiez 20 ans, n'est-ce pas, ici, à Saint-Jodard, à essayer d'entrer dans la philosophie première. 20 ans. Et il n'était pas d'accord. C'est encore plus beau. Il a suivi un maître, n'était pas d'accord, mais il l'aimait beaucoup. Mais il aimait plus la vérité que Platon. Ce qui lui a permis d'être libre. Puisque c'est la vérité qui vous libère. Pour Platon, la substance, l'ousia, c'est la forme. C'est la forme en soi. Donc c'est l'eidos. L'eidos. L'eidos, traduisez idée. Traduira l'idea en latin et l'idée. J'ai une idée. L'artiste a une idée, une inspiration, un projet, une idea, l'eidos. Alors pour Platon, l'ousia est eidos. Donc, l'ousia, pour Platon, c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Puisque Eidos, c'est l'intelligibilité d'une réalité. J'ai une idée. L'être, pour Platon, c'est l'intelligibilité. Et au-delà de l'être, il y a l'un qui d'Aristote qui reprend la grande perspective de Parménide que l'être est plus profond que l'un. Et vous voyez, quelqu'un d'aussi génial que Platon n'a pas découvert que l'être était avant l'être, que l'être était plus profond que l'un. C'est ça, nous, ça nous donne du courage, vous comprenez, de voir que en métaphysique, on peut faire des erreurs tout en étant un génie. Heidegger est génial sous beaucoup d'aspects. Il n'a pas saisi. Husserl aussi n'a pas saisi. Husserl est resté à l'intelligibilité. C'est l'eidos. C'est pour ça qu'il y a un premier Merleau-Ponty qui est husserlien et le second Merleau-Ponty qui veut dépasser Husserl. Il y a la même chose pour Heidegger. Et ça, c'est intéressant de voir Aristote face à Platon comment dépasser l'eidos. C'est ça qu'il faut bien saisir. Comment dépasser le premier dans l'ordre de l'intelligible n'est pas le premier dans l'ordre de l'être. Parce que l'être est source de l'intelligibilité, mais n'est pas identique à l'intelligibilité. Tout être en tant qu'être est intelligible. Mais l'intelligibilité n'est pas l'être. L'être est la source de l'intelligibilité. Alors, comment montrer cela? Et tout le livre des états, c'est là où Aristote invente un mot. Et ça, il faut le savoir. Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Aristote invente un mot. Le to en einein. Alors, mettez comme ça. Aujourd'hui, ça fait bien. C'est pas... Alors, il faut comprendre que c'est le TN du Tōeinai. Le Tōeinai, le fait d'exister. Tōeinai. Le fait d'être. Le être. C'est le fait d'être. Dans le fait d'être, le TN. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Mais N, l'imparfait pour que ça dure. Qu'est-ce qui dure dans le fait d'être? Alors, on a traduit en latin quod, quid, erat, esse. C'est un peu trop long. On a dit quiditas. Et on a traduit en français quidité. Et ce mot d'Aristote circule encore dans la philosophie contemporaine et moderne. Sartre emploie quidité sans savoir du tout ce que ça veut dire étymologiquement. Parce que ça vient de là, quiddité. C'est très intéressant, c'est un de ces mots forgés par Aristote. Ça n'existe pas avant Aristote. C'est un mot donc, c'est un mot grec qui est pour exprimer la quiddité. Qu'est-ce que c'est que la quiddité? C'est l'intelligibilité première et profonde de la réalité. C'est le premier katoto. Le katoto, c'est le percé, hein, latin. La perceita, c'est-à-dire ce que vous êtes en premier lieu dans l'ordre de l'intelligibilité. Qu'est-ce que vous êtes en premier lieu dans l'ordre de l'intelligibilité? Un homme. votre cuitité. La cuité, donc, c'est l'intelligibilité fondamentale d'une réalité. La cuitité, c'est ce que vous définissez. Quand vous voulez définir Pierre, vous dites homme. Oui, vous retrouvez substance première, substance seconde. Mais repensez du côté métaphysique. La substance première, le fait d'être. Et dans le fait d'être, le tienne. C'est-à-dire son intelligence première, son intelligence essentielle. En scolastique décadente, on dira cuidité égale essence. Cuidité égale essence. Et Sartre dira, parce qu'il est un scolastique décadent, alors Sartre dira cuidité égale essence. Et alors on opposera essence à existence. On dira l'essence et l'existence. L'essence d'une réalité et son existence. Alors vous voyez, comme on est loin du point de départ, dans le Toti Eneinein, il n'y a pas d'opposition entre l'exister et le tienne, puisque le tienne est dans l'exister. Et progressivement, on a opposé les deux. On met l'essence et l'exister. Alors on ne sait plus du tout ce qu'on sait. On est très loin de la réalité. Parce que vous n'avez jamais vu l'essence se balader. Sauf dans les postes d'essence. Alors ça c'est oui. Autrement, c'est le pantareil. Mais parce que ça coule. Mais autrement, vous n'avez jamais vu l'essence. L'essence d'un être, ça ne se voit pas. Mais ça se comprend. C'est son intelligibilité. Quelle est votre essence? Homme. Quelle est votre cuidité? Homme. Le fait d'exister, c'est l'individu, c'est Pierre. Alors il faut tout le temps reprendre le point de départ. Ça, il faut le comprendre. Aristote invente ce mot pour montrer la différence qui existe entre l'être qui est et son intelligibilité. Vous voyez, il met en pleine lumière le tienne dans le fait d'exister. C'est pas bête, hein? On illumine le tienne. Ce qu'est une réalité dans son intelligibilité première. Tout. Petit à petit, vous arriverez à bien saisir. Mais ici, je n'aime pas ça. Hein. Parce que la distinction essence-existence, c'est un jugement de sagesse. On verra ça. Donc c'est pas du tout quelque chose de premier. Tandis que cuidité, ah, c'est l'intelligence des premières d'une chose. Quelle est son intelligibilité? Comment je définis une chose? Je définis une chose en saisissant son intelligibilité essentielle. C'est le contenu de la définition. C'est le fondement réel de ce qui est défini. La cuidité. La cuidité est inséparable du Toeinein, le fait d'exister. Puisque pour définir quelque chose, il faut d'abord que cette chose existe. Vous ne donnez pas des définitions d'une réalité purement imaginaire. Une réalité purement imaginaire, on ne la définit pas. On la représente. L'imagination, on la définit. Définir quelque chose, c'est chercher sa signification profonde, sa signification première. Donc, on ne définit que ce qui existe. L'imaginaire, ça se représente, ça ne se définit pas. Définissez vos rêves. Non, ça se représente. Alors, Aristote invente Totien et Nein dans le livre Zeta pour montrer que la réalité est plus radicale que le Totien et Nein. Le Totien et Nein, c'est la réalité face à mon intelligence. Qu'est-ce que mon intelligence saisit de cette réalité ? Sa quiddité. Son intelligité. Bon, ça, il faut savoir qu'Aristote invente le mot Totien et Nein pour préciser que l'ousia n'est pas la quiddité. Contrairement à ce que dit Tricot. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il y a quelque chose de plus radical que la quiddité. Quand vous dites « ceci est », vous n'indiquez pas la quiddité. Quelle est la quiddité du « ceci est » ? C'est ceci. Et quand vous dites « ceci est », vous indiquez le « Toeinein », le fait d'exister. Mais le ceci, c'est sa détermination. Ceci, c'est la vache. Ceci, c'est le champ. Ceci, c'est l'homme. C'est Pierre. Oui. Donc, comprenez bien que dans la ligne de la détermination que mon intelligence saisit, c'est la quiddité. Alors, je vais aller très vite. Simplement pour essayer de réfléchir sur le contenu qu'on pourrait prendre de ce livre Zeta, qui est très intéressant. Il faut le lire, il faut le relire, il faut le relire 50 fois. Alors à ce moment-là, vous pouvez donner la main à Avicenne. Ça, j'ai compris. Mais même Avicenne, au bout de 50 fois, l'a pas compris. Je crois qu'il n'a pas compris. Entièrement. Parce qu'il était néoplatonicien. Mais il a quand même dit des choses extrêmement intelligentes sur le livre Zeta. Alors, faisons-nous notre petit livre Zeta. Regardons tous les premiers dans l'ordre selon la forme dans la philosophie. Nous avons un petit exercice très simple. Mais très facile à faire et intéressant. Nous avons donc la philosophie pratique, la philosophie spéculative. Qu'est-ce qui est le plus proche de la philosophie première ? C'est la philosophie spéculative. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la philosophie du vivant ? L'âme. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la philosophie de la matière? La nature-forme. En philosophie pratique, qu'est-ce qui est premier en philosophie de l'art? La idos. Forme, idée, fruit d'inspiration. Qu'est-ce qui est premier en philosophie éthique ? Dans l'ordre de la détermination. Hein ? Qu'est-ce qui peut me dire ça ? Petite réflexion, vous voyez. Très intéressant en philosophie éthique. Philosophie éthique, ce qui est premier, c'est la finalité. C'est pas la forme. C'est la finalité qui est première. C'est le bien. Le bien, l'ami, c'est l'ami. Alors, est-ce que c'est premier dans l'ordre de la détermination ? Le choix par rapport à l'ami, c'est le premier. de la vie. C'est le nœud de toute éthique. Et en philosophie politique, c'est le bien commun. Le bien commun est fin et fait. Alors, est-ce que c'est le bien commun qui est première dans la détermination? Ou est-ce que c'est la loi? Le bien commun et la loi se tiennent. Et la détermination du bien commun, c'est la loi. Voilà tous les premiers, selon la détermination. Alors, voyez, petite réflexion très simple. Comparer l'ousia à l'âme, comparer l'ousia à la nature-forme, comparer l'ousia à l'eidos, comparer l'ousia au choix, comparer l'ousia à la loi. En comprenant que l'ousia est première dans l'ordre de l'être, la loi est première dans l'ordre de la communauté, le choix est premier dans l'ordre de l'amitié, l'eidos est première dans l'ordre de l'amitié, et ainsi de suite. Ça vous montre l'intelligibilité profonde de l'ousia, puisque l'être contient toute cette intelligibilité. Mais c'est ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Oui, ça c'est une mayonnaise métaphysique. Mais vous cherchez ce qui est premier dans l'ordre de l'être, et vous voyez que ça tient. C'est très curieux. Et c'est ça qu'Aristote fait dans le livre. Dans le livre des états, il cherche tous les premiers pour montrer qu'il y a un premier dans l'ordre de l'être qui assume tous les autres premiers. Mais c'est autre chose. Alors, j'en ai oublié un. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la réflexion critique? La critité. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre logique, critique? Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre logique, l'universel? L'être de raison. Alors voyez, c'est quand même intéressant ça, parce que ça vous donne une, deux, trois, 4, 5, 6, 7. Ça vous donne 7 pistes pour saisir l'ousia. L'ousia est analogue à l'universel. L'ousia est analogue à la quiddité. L'ousia est analogue à l'eidos. Analogue au choix. C'est extraordinaire. Toutes les analogies que vous pouvez voir, parce que partout, il y a un premier. Et ça a l'immense avantage de donner un peu d'étoffe à l'ousia. Parce que quand vous saisissez l'ousia, c'est pour vous. Un principe, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'étoffe. Le premier, cela, au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est ça le premier. Cela au-delà de quoi je ne peux pas aller. Dans l'ordre de la détermination d'une communauté, qu'est-ce qui est premier? La loi. Je ne peux pas aller au-dessus. Qu'est-ce qui est premier? Selon la forme. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre artistique? L'eidos. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la philosophie du vivant? L'âme. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre du devenir? La nature-forme. Vous citez tous les premiers. Et il y en a 7, 7 petites têtes. Et au-dessus de l'ousia. L'ousia est fondamentale dans l'ordre du premier. Ça vous aide à comprendre ça. La richesse. intellectualisant. C'est le premier dans l'ordre de l'être selon la forme. Alors ça vous donne une richesse extraordinaire, cette affirmation d'Aristote. Ça c'est Aristote qui le dit. Ce qu'il faut, c'est le retrouver soi-même. Et une fois qu'on l'a retrouvé, on peut dire qu'Aristote avait bien précisé l'ousia. C'est ce qui est premier, selon la forme, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de ce qui est. De quoi ? Eh bien oui, c'est dans l'amour, dans l'amour d'amitié. Quelle est votre détermination ? Non, c'est pas l'amour. L'amour n'est pas une détermination. L'amour est au-delà de toute définition. La cause formelle est complètement dépassée dans l'amour. Heureusement pour l'amour. Vous aimez. L'amour est une attraction. Je suis fou quand j'aime. Puisque je suis délogé de ma cuidité. Vous ne demeurez plus en vous quand vous aimez. Vous demeurez dans celui que vous aimez. Tandis que le choix, vous demeurez en vous. C'est vous qui choisissez, c'est vous en choisissant l'ami qui lui donnez sa détermination. Vous avez ce pouvoir extraordinaire quand vous choisissez quelqu'un. Tu es mon ami, veux-tu être mon ami? Vous choisissez, il devient votre ami, vous lui donnez une figure, une détermination. Mais c'est bien le choix. C'est pas commode, hein, parce que c'est dans l'ordre. C'est à travers. Vous voyez, ce n'est pas l'analogue de l'acte, c'est la fin. Alors je dirais l'amour. Ce qu'on verra pour l'acte. Mais l'analogue de la détermination dans l'ordre éthique, c'est le choix. Le choix est analogue à la loi. Vous voyez, c'est très curieux. La loi est ce que celui qui légifère a choisi pour toute la communauté pour la déterminer. C'est un choix, une loi. On choisit cette loi. Vous y réfléchir beaucoup à ça. Et si vous avez des difficultés, essayez. Parce que c'est là où on saisit le procédé analogique, vous voyez. Si on faisait un traité sur la substance, il faudrait faire 7 chapitres. Et le dernier, qui serait la conclusion, l'ousia est au-delà de tous ces premiers. Ce serait une manière de reprendre ce livre génial de Lev Zetan. La manière dont on peut reprendre ça. Alors ça montre comment l'ousia est le point terminal de la découverte de la cause selon la forme. Dans l'ordre de l'être. Une fois que je saisis l'ousia, je vois que l'ousia est première dans l'ordre de l'être, donc elle subsiste. C'est le caractère propre de l'ousia. Subsister, c'est-à-dire avoir son autonomie. L'ousia est en référence à rien. Elle est première. Elle s'impose. Chacun d'entre nous, nous avons notre petit ousia. C'est pour ça qu'on est autonome. Mon autonomie dans l'ordre de l'être, c'est que je subsiste. Et je ne dépends d'aucun autre être. Je ne suis relatif à personne d'autre. Mais dès que je découvre l'ousia comme première dans l'ordre de l'être, je montre que toutes les autres déterminations par rapport à moi-même sont secondes, sont relatives à cette première, l'intelligence, ma capacité d'aimer, ma capacité de dominer, ma quantité, toutes mes relations. Je reprends tous les prédicaments en voyant que toutes sont des déterminations secondes. Donc relative à cette première détermination, le sujet. substance quand elle est réalisée concrètement et le sujet capable de recevoir tous ces déterminations secondes. Parce que précisément, la substance subsiste en elle-même. Pour recevoir les autres déterminations, il faut subsister en soi. Il faut avoir cette autonomie. Bon, je passe. Hein. Parce que ceci a été fait l'année dernière. C'est la première partie de la philosophie première. Découvrir l'ousia. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut garder le mot grec. Parce que le mot substance, vous voyez, alors là aussi c'est intéressant à voir. Aujourd'hui, le mot ousia se traduit en scolastique, chez saint Thomas du reste déjà, par substance, qui vient de substantia. Alors voyez, l'étymologie de ousia et l'étymologie de substance sont très différentes. Et on est passé de l'ousia grec à substance. L'ousia grec est lié à tōhon. C'est pour ça que Ricoeur, quand il enseignait en Sorbonne, traduisait ousia étance. C'est intéressant, mais on ne peut pas mettre étance. Étance, ça n'existe pas. Dans la langue française, étance, à ma petite étance, ça va pas du tout. Ma substance, on est tellement habitué à substance, mais on voyait très bien pourquoi il disait ça. Heidegger fait beaucoup plus simple, mais vous dire, on ne peut pas traduire, parce que c'est lié douane. Tandis que substance, c'est sub, stare. Donc c'est ce qui se tient en dessous. Qu'est-ce qui se tient en dessous? C'est le sujet. Tandis que ousia, c'est principe. Toute la différence entre un principe et un sujet. Le principe, c'est ce qui est atteint par l'intelligence. Un principe n'existe jamais comme principe. C'est l'intelligence qui saisit un principe. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller dans l'ordre de l'analyse. Tandis que sujet, ça existe. Ça supporte des accidents. Ça supporte un manteau. Quand vous mettez un manteau parce qu'il fait froid, vous êtes le sujet de ce manteau. Bien sûr, vous enveloppez. Venez. Vous êtes sujet. Et on ne voit plus l'ousia. Le principe. Alors c'est très curieux. C'est que le sujet implique une réalité existante. Le principe, il est dans la réalité. Mais il est saisi uniquement par l'intelligence. Alors, on est passé de principe à sujet. Et toute la scolastique décadente, quand on parle de substance, dit sujet. Ça, j'ai fait l'enquête. Toute la scolastique décadente. La substance, c'est le sujet. Vous voyez qu'on reste donc au niveau prédicamental. Donc, on est tombé dans une attitude positiviste au plan métaphysique. Et on a perdu le sens profond de l'ousia. Ceci, c'est pour montrer les déviations. C'est toujours intéressant, les déviations. Comment, de fait, on est passé de l'ousia d'Aristote au sujet. C'est très vrai que le principe, quand il existe grâce à son autonomie de principe, il peut avoir la fonction de sujet. Mais être sujet, c'est une fonction. Je supporte mon manteau, je suis le sujet de ce manteau. C'est le mannequin. C'est pas la personne humaine. C'est une fonction. Je supporte tout ça. Je le porte. Tandis que le principe, c'est quelque chose que l'intelligence seule saisit. Le principe est toujours invisible. Le sujet est visible. De l'invisible au visible. Oui. Le sujet, c'est ce qui apparaît. Le principe, c'est ce qui est saisi en des réalités. C'est la signification ultime de la chose. Et la substance, c'est la signification première de ce qui est. Tandis que le sujet, c'est une fonction de ce qui est premier et qui est capable de supporter les autres. Donc, quand je regarde l'ousia, pensez toujours au principe propre de ce qui est en tant qu'être, comme être. Ce principe propre, il est cause. Pourquoi ? Parce que ce principe propre subsiste en lui-même. Parce qu'il subsiste en lui-même, il peut être cause. Cause propre de ce qui est. C'est le principe. Ce principe est capable de subsister dans l'ordre de l'être. Il est cause. Et sa fonction, c'est d'être sujet. Concrètement, parce que cette cause et ce principe dans sa réalité existent de manière complexe. Donc il est sujet. Un sujet est toujours quelque chose de complexe. Vous êtes un peu noyé là-dedans. Mais c'est des choses qui petit à petit je résume simplement pour que vous compreniez la matérialisation que fait la scolastique. On a matérialisé un principe en le considérant comme sujet. Saint Thomas, dans la Somme, peut très bien regarder la substance comme sujet. Peut très bien le faire. Pourquoi ? Parce que le théologien utilise la philosophie selon son bon plaisir. Alors il prend la substance comme sujet, comme subsistance, comme principe, comme cause. Ça n'a pas d'importance. Le philosophe, lui, doit préciser exactement ce qu'il découvre. Le terme de l'induction, c'est un principe. Et ce principe est où ? Seulement principe d'intelligibilité ou principe de la réalité, alors il est cause. Quand je passe du principe à la cause, je souligne que ce principe est premier dans l'ordre de l'être ou dans l'ordre du devenir. Parce que la cause, c'est d'être premier dans l'ordre de l'être ou dans l'ordre du devenir. On peut être premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité n'est pas cause. C'est l'erreur de Descartes. Descartes a considéré que c'était premier dans l'ordre de l'intelligibilité était cause. Et à partir de là, il a confondu l'être et l'intelligibilité, ce qui est l'erreur de l'ontologisme. Je Je n'en dirai pas plus de la substance. Je souligne seulement qu'au plan philosophie première, après avoir précisé ce qu'est l'ousia, je précise ce qu'est la qualité, ce qu'est la quantité, ce qu'est la relation, les modes principaux, secondaires de l'être. Puisque, à côté de l'interrogation qu'est-ce ? Qu'est-ce l'être ? C'est-à-dire, quel est son principe ? Son principe propre, selon la forme. Je dis ousia. Je découvre l'ousia. La seconde interrogation. En quoi ? En quoi l'être ? Seconde interrogation. À l'interrogation « En quoi ?», je découvre la matière. En quoi cette statue ? Quelle est sa matière ? Alors ici, je vois qu'il y a deux philosophes qui ont répondu « En quoi l'être ?» Ils ont dit « La matière. » C'est Averroès et Lénine. C'est assez amusant. Il y a deux philosophes qui, se posant la question « En quoi l'être ?», ont dit « La matière ». C'est Averroès et Lénine. Cherchez bien. La métaphysique que sous l'aspect du comment. La matière, au niveau métaphysique, n'est saisie que dans l'ordre du comment. Comment l'être existe-t-il ? L'être existe dans le monde physique. Mais comme c'est intéressant, c'est ce fameux passage du devenir et de l'être. Et c'est très éclairant à ce moment-là. Le devenir, au niveau métaphysique, c'est de l'ordre du comment. Il n'y a pas de premier dans l'ordre du devenir. Au niveau de l'être. Le fait même à tout positivisme. Parce que dans le positivisme, pratiquement, on ramène le pourquoi au comment. Alors, le positivisme est un peu plus noble que la dialectique matérialiste. Mais elle est du même ordre. C'est pour ça qu'ils s'entendent très bien. Et c'est pour ça que Lénine peut dire que le marxisme évolue selon la science. Parce que dans la science moderne, on ne cherche que le comment. On ne cherche pas le principe. Donc vous voyez comment le positivisme implique en lui-même un matérialisme. Parce que si vous restez dans l'ordre du comment, sans sortir de l'ordre du comment, nécessairement, la matière ce qu'il y a de fondamental. Je ne dis pas ce qu'il y a de premier, mais fondamental. Ce qu'il y a de fondamental dans l'ordre du devenir, c'est la matière. La matière est de fait premier dans l'ordre de l'être, c'est l'ousia, principe selon la forme. Donc, pas de recherche à l'interrogation en quoi est l'être. En quoi est l'être est une fausse interrogation sur l'être. Réfléchissez pourquoi ça, hein. Parce que c'est très très important. C'est la purification intellectuelle de tout le matérialisme et de tout le positivisme.